Bonjour et bravo d'être encore vaillant. Hein. J'espère que c'est le cas pour nos intervenants et intervenantes qui, de toute façon, je pense qu'ils sont indestructibles. Donc ça devrait aller. Surtout, nous sommes encore qu'au deuxième jour du festival. La question de ce soir, le futur, pourquoi y aller, hein, formulation un tout petit peu énigmatique tout de même, parce que finalement, qui va aller dans le futur, c'est la première question, finalement, qui veut y aller. Bon, évidemment, nous y allons tous en permanence, d'une seconde à l'autre, mais bon. Pourquoi aller dans le futur? Il est question un peu de enfin, c'est un petit peu au départ la question du voyage dans le temps, hein. C'est pour ça que vous avez, par exemple, ceci, là, Retour vers le futur. Bon. La question du voyage dans le temps et notamment la question du voyage dans l'avenir, hein. Ce sera pas forcément tellement de questions du voyage dans le passé, mais, enfin, en même temps, je ne contrôle pas ce que mes intervenants peuvent dire. Les cartographes d'autrefois mettaient les navigateurs en garde contre les dragons qui peuplaient les contrées inexplorées. Et de fait, le voyage temporel compte lui aussi ses dragons des cartes. Et il est rare qu'un récit de voyage dans le temps, surtout dans l'avenir, ne débouche pas sur une forme de crise, parce que de toute façon c'est toujours plus amusant comme ça, avec parfois des monstres terribles, des mutants dégénérés, des surhommes inhumains, et les fameux Morlocks que vous apercevrez en passant ne sont pas moins effrayants à mon sens que leurs équivalents. Ça marche, oui, ça marche. Puisque, enfin, finalement, je ne sais pas qui sont les pires. Personnellement, moi, je préfère les Morlocks parce que je préfère encore des gens avec qui on peut fabriquer des choses. Mais bon, visiter l'avenir, c'est potentiellement se mettre en danger. Et l'idée même, éventuellement imprudemment. On parlera peut-être un peu de Barjavel en cours de route. Et c'est aussi risquer de perdre toute foi dans le potentiel de l'humanité, hein, finalement. D'ailleurs, c'est ce qui se passe pour Barjavel. Il visite le futur et finalement, il se dit, bon, j'aurais mieux fait de pas y aller. Autant revenir et aller s'amuser dans le passé. Donc, dans la réflexion que nous allons engager, je précise que nous ne parlerons pas, mais encore une fois, je ne contrôle pas ce qui va se passer, par exemple, de l'effet papillon. L'idée de ne pas agir sur le passé, faites attention à sur quoi vous marchez quand vous allez dans le passé. Bon, là, c'est pas tellement la question, hein. Mais éventuellement, et ça c'est quand même une variation tout à fait remarquable, c'est que autant on nous explique dans la science-fiction que surtout, il ne faut pas marcher sur les papillons quand on va dans le passé, autant on nous dit bien, si vous êtes dans l'avenir, profitez-en pour changer votre présent. Ce qui revient à dire condamner les gens de l'avenir que vous avez vus à l'inexistence, puisque vous allez totalement annihiler leur ligne de possibilité. Bon, ça a l'air de perturber un peu moins les gens. Donc, nous parlerons peut-être de la façon dont la connaissance de l'avenir peut servir à empêcher l'avenir. Hein. Un terme bien connu des amateurs de Terminator ou de Retour vers le futur. Donc, je nous propose de réfléchir à ce qui nous pousserait, dans la fiction ou en général dans l'esprit, ce qui nous pousse à franchir la frontière de l'avenir, à voyager dans les avenirs que la science-fiction envisage pour nous. Parce que j'étends un tout petit peu la question potentiellement à, mais finalement, pourquoi lire de la science-fiction et de l'anticipation ? Parce que finalement, aller dans l'avenir, c'est aussi ce que cherchent à faire les lecteurs d'anticipation. Et donc la question est double. Elle touche aussi bien les lecteurs que les personnages. D'une part, qu'est-ce qui peut motiver un humain à s'engager dans l'avenir à ses risques et périls ? Finalement, autant rester chez soi, bien tranquille. Et d'autre part, que viennent chercher les lecteurs qui s'attaquent à un récit d'anticipation ? Alors, pour cela, nous avons une belle brochette d'auteurs et d'autrices, ou d'auteurs, ou de... Bon, autrices, c'est bien. Immédiatement à ma droite, Laurent Jeunefort, bien connu des amateurs de science-fiction et que vous avez sûrement déjà entendu de nombreuses fois aujourd'hui, je l'ai entendu moi-même, et qui, comme il le disait dans une autre table ronde, pratique moins la question de l'anticipation que le genre du space opéra. Mais qui fait partie tout de même des futurs que nous allons envisager. Dans la question de visiter le futur immédiat, je pense que nous parlerons peut-être de points chauds, par exemple. Hein. Mais je mentionne également dans ses romans parus récemment, Étoiles sans issue et le cycle de Spire, qui est paru chez Critique, qui est en cours de parution chez Critique. Il y a déjà deux romans parus. À la droite de Laurent Jeunefort, Nadia Coste, qui est une auteur, autrice, voilà, autrice. Hein. Une autrice plutôt à destination de la jeunesse, qui a fait de nombreux ouvrages et de nombreuses séries, et qui nous parlera peut-être plus particulièrement aujourd'hui, notamment de L'Effet Ricochet, qui est nominé au prix européen Jeunesse des Utopiales, mais aussi de L'Empire des Auras, une dystopie. Ça se discute comme bien sûr, et de L'Ascenseur pour le futur, qui là est en plein dans notre sujet. À la droite de Nadia Coste, Ariane Gélinas, excusez-moi, je ne vais pas faire d'impair, qui a notamment fait paraître récemment Les Cendres de Sedna, hein, et qui est la directrice littéraire de la revue Le Sabord, ainsi que la directrice artistique du magazine Brin d'Éternité, hein, qui a fait aussi, qui est en cours. Alors, vous avez terminé votre doctorat ou?
Dans deux semaines.
Ah, parfait, dans deux semaines.
Je soutiens dans deux semaines, j'essaie de ne pas y penser, mais...
Donc voilà, voilà, c'est ça, donc parlons-en toujours, n'y pensons jamais. Pourquoi aller dans le futur, et notamment pour devenir docteur en littérature. Sur le thème des Mémoires du Diable de Frédéric Soulier. Donc, Ariane Gélinas qui se préoccupe beaucoup de littérature fantastique. Et enfin, last but not least, Karim Berouka, qui est évidemment écrivain, je l'ai déjà annoncé, et qui a notamment fait paraître le Club des Punks contre l'Apocalypse Zombie, qui est une invitation à aller dans le futur, parce qu'on a vraiment envie de voir ce qui se passera au moment où les punks affronteront les zombies. Non, pas vraiment, si. Donc première rubrique. Alors j'ouvrirai le champ des questions ensuite au fur et à mesure, hein, un petit peu quand je sentirai un peu de fatigue, un peu de mou chez nos auteurs et autrices. Et donc première série de questions, les dangers de l'avenir. Diriez-vous que l'avenir est forcément dramatisé dans les récits de science-fiction? Est-ce que on peut envisager un avenir neutre, tranquille, sympathique? Et qu'en est-il dans vos œuvres, dans votre propre pratique? C'est-à-dire que est-ce que, d'une certaine façon, vous pouvez envisager de vous transporter dans le futur de façon finalement neutre, neutralisée? Alors, dans l'ordre que vous voulez.
Moi, je voudrais faire la distinction déjà entre des romans qu'on va écrire maintenant et qui se passent dans le futur, ou des romans sur le voyage dans le temps, et surtout peut-être sur les romans qui ont été écrits avant l'an 2000 par rapport aux romans qu'on écrit maintenant. Parce que moi, j'ai la très forte sensation que l'an 2000 était une date magique. Quand nous, on était enfants, on nous a vendu le futur en nous disant « On verra en l'an 2000, il y aura des voitures qui volent, on pourra se téléporter d'un coin à l'autre de la planète et faire des vacances sur Mars, on ne mangera plus de légumes, il y aura des petites pilules à la place. » Enfin, on avait vraiment cette vision... un peu magique de l'an 2000. Enfin, je veux dire, même en décembre 99, on y croyait encore, hein, quand même à l'an 2000. Et moi qui écris plutôt pour la jeunesse, je me rends compte que les enfants de maintenant ont pas cette date magique. Et en fait, autant tout ce qu'on pouvait se projeter avant l'an 2000, on pouvait imaginer des futurs très positifs. Et même si on avait, dans les années 90, on avait le chômage, on avait des maladies, on avait la guerre du Golfe, on avait des tas de trucs qui allaient pas. Mais nous, on avait l'an 2000. Les enfants de maintenant, ils ont plus l'an 2000. Et du coup, je trouve que dans les récits qui se passent dans le futur, qu'on écrit maintenant, c'est assez compliqué d'être sur quelque chose de positif. En fait, on est forcément sur du post-apocalyptique ou sur quelque chose qui va se détraquer dans la société. On est plus rarement sur quelque chose de vraiment très positif et merveilleux.
Oui, c'est très juste. Et puis c'est le cas également chez nous au Québec. Le post-apocalyptique est tellement populaire que tous les éditeurs généralistes publient des romans post-apocalyptiques, et puis souvent ils les priment, ils leur donnent des grands prix, et puis en n'utilisant jamais le terme science-fiction alors que c'est clairement des romans post-apocalyptiques. Et puis avec le pivot de la date de 2000, ça aussi c'est très juste. Et ayant commencé par exemple à écrire une dizaine d'années après ça, en fait autour de 2010, eh bien je le ressens aussi très bien. Alors, tu me demandais, Simon, comment dans nos œuvres ça va quel écho ça peut trouver. Et puis, je me rends bien compte, et je me suis noté cette année presque au surligneur. Alors, essayer d'avoir un regard sur le futur moins négatif, moins dramatique, parce que c'est un petit peu dans l'air du temps, Par exemple, ce que je peux avoir écrit, mon tout premier livre était une novella post-apocalyptique, par exemple, qui se passait dans un Groenland après une guerre bactériologique. Alors, le mot guerre est justement éloquent, où il y avait, le Groenland se retrouve isolé du reste du monde. C'est la seule île, mais île, il faut le dire vite, c'est immense, comme vous savez, la seule île qui a survécu avec à la fois les descendants de Danois et la population autochtone. Et il y a également eu des réchauffements climatiques, thème qui, je pense, qui nous a interpellés pour plusieurs, et qui s'est retrouvé dans quelques autres de mes nouvelles de science-fiction. Parce que comme on mentionnait dans la présentation, oui, j'écris davantage de fantastique, mais du côté de la nouvelle et de la novella, j'aime beaucoup explorer avec la science-fiction, notamment les changements de climat. Et j'étais très heureuse de l'invitation de l'anthologie cette année des Utopiales, qui m'a demandé d'écrire une nouvelle. Alors spontanément, j'ai souhaité écrire sur la déforestation qu'on a au Québec en ce moment, couplé avec le réchauffement. C'est quand même très étonnant. Je suis partie du Québec la semaine dernière. Il faisait la même température qu'ici. C'est pas supposé. Et tout comme c'est pas supposé lorsqu'on prend l'avion du sud au nord du Québec et de regarder, on dit « Ah, alors il y a des lacs, il y a des arbres autour, il y en a plus après ». Et puis c'est comme ça très très longtemps, jusqu'à temps qu'on dépasse la limite des arbres où il n'y a plus du tout d'arbres qui ont été à enlever, finalement. Alors ça m'a intéressé dans la nouvelle qui est dans l'anthologie notamment. Alors la façon dont ces thèmes-là se retrouvent, ça donne-tu quelques exemples?
Laurent ou Karim, vous souhaitez réagir? Non, pas spécialement. Faut pas vous forcer, hein, on peut passer à une autre question, il n'y a pas de problème.
Non, je dirais que déjà d'un point de vue d'écrire, c'est quand même pour l'imagination, c'est quand même plus sympa d'écrire des futurs qui se passent mal. Je pense qu'il y a plus de choses à dire et de critiques à faire, et dramatiquement c'est plus intéressant que d'écrire des utopies où il se passe rien parce que tout est parfait. Bon, ça c'est personnel. Et puis après, je pense qu'aujourd'hui on est dans une période où on n'imagine pas beaucoup le futur, mais pas seulement au niveau littéraire, au niveau sociétal. Le futur fait peur, on ne sait pas où on va, on n'a pas l'optimisme qu'on avait dans les années 70 ou fin 80 encore, mais surtout années 60, 70 où on découvrait des choses, et puis au début du siècle où on découvrait la science, où là on pouvait imaginer plein de belles choses. Aujourd'hui on est un peu coincé dans un monde qu'on ne comprend plus trop bien, qui s'emballe, où la science-fiction elle appartient au quotidien, et donc c'est vrai que c'est difficile d'imaginer un futur. Technologiquement, c'est vraiment, il faut vraiment être très 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 doué pour pouvoir imaginer ce qui pourra se passer dans 20 ans technologiquement, puis même au niveau de la société, quoi. Voilà, donc maintenant l'écrivain de science-fiction fait du steampunk, c'est plus facile.
Mais
bon, j'exagère un peu, mais bon.
Non, pas tant que ça, parce que c'est ma position. C'est pour ça que j'en fais très peu, moi, d'anticipation. Parce que justement, je trouve que c'est très difficile. Et en même temps, je trouve que c'est... Moi, je commence à m'y mettre, et je mesure la difficulté de la chose. En même temps, je me rappelle de... Enfin, les auteurs ont toujours eu peur, dans leur époque. Dans l'entre-deux-guerres, il y avait Spitz et Karsak qui faisaient des romans...
Des romans de fin du monde en permanence.
De fin du monde en permanence, parce qu'ils pressentaient la guerre qui arrivait, où ils venaient juste d'en sortir, pour les derniers romans de Spitz. Donc c'est... Voilà, après il y a eu la terreur nucléaire, et des romans profondément pessimistes sur des holocaustes nucléaires. Voilà, chaque période a eu ses grandes hantises. Maintenant, on est dans un... Ce qui est intéressant... En fait, on est dans une période super intéressante pour la SF, je trouve. Parce qu'on n'a jamais... D'abord parce que le domaine de connaissance a explosé. Que ce soit les exoplanètes, les progrès en physique fondamentale, on a les champs de connaissance... On se sont vraiment multipliés de notre vivant, c'est assez incroyable en fait ce qu'on vit. Et parallèlement à ça, on est dans un chamboulement social absolument majeur. On est dans un changement civilisationnel, mais drastique comme on n'en a pas vu peut-être depuis plusieurs centaines d'années. Donc en plus de ça, on est peut-être à la veille d'un effondrement même pas écosystémique, mais biosphérique, qui fait que on c'est le moment de faire de la SF, en fait. Et c'est le moment de faire de l'anticipation. Donc c'est à la fois c'est quelque chose qui fait peur parce qu'on est arrivé à un degré. Effectivement, il faut être très bon. C'est pour ça moi que moi, j'en ai pas fait depuis longtemps. Je me suis très très longtemps pas senti juste les épaules de le faire, littérairement parlant. Il a fallu que je fasse 50 bouquins avant de me dire je vais essayer de faire un bouquin d'anticipation. Et encore, c'était point chaud. Et encore, même là-dedans, il a fallu que j'introduise un changement massif qui était une arrivée massive d'aliens pour faire quand même une rupture majeure en fait, qui symbolisait toutes les ruptures qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc on est dans le tissu craque de partout, et en même temps ça tout n'est pas négatif en même temps. Parce qu'on peut aussi faire des apocalypses joyeuses, ça arrive, ou des nouvelles manières d'envisager ça quoi. Donc je pense que ça n'a jamais été aussi propice à la SF en réalité. La situation. Ça ne veut pas dire que le public il est prêt à ça. Mais en tout cas, au niveau des auteurs, je trouve qu'il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de trucs à faire.
Je pense que c'est la force des littératures de l'imaginaire en général, hein, pas uniquement la SF, mais un petit peu tous les genres de l'imaginaire, c'est finalement nous parler de nous, de voir les problèmes de maintenant, les déplacer, ou dans le futur, ou sur notre planète, ou avec des pouvoirs, ou voilà. On déplace les problèmes de maintenant, on met une loupe vraiment sur un point de notre société ou plusieurs, et on va grossir ça, et c'est vraiment ce qui nous permet de le faire, ces littératures de l'imaginaire là. Bon, c'est vrai que pour les romans d'anticipation, je trouve que c'est difficile de vouloir faire quelque chose de complet, de prendre tous les aspects économiques, politiques, écologiques, et de mettre tout dans un seul roman par rapport à ce qu'on sait maintenant, par rapport à ce qu'on pourrait se projeter dans le futur. Tout mettre, c'est compliqué. Se focaliser sur un point ou deux vraiment dont on veut parler, quel sera le thème de ce roman-là. Voilà, ce roman-là, je veux aborder ce point. Je vais mettre de côté d'autres points parce que ce sera compliqué, effectivement, de tout mettre dans un roman. C'est compliqué de tout mettre dans un roman, il ne faut pas le faire. En général, c'est le piège des premiers romans où on veut tout mettre dans le roman. Mais voilà, peut-être se concentrer sur un point politique ou écologique ou sociétal, focaliser dessus, l'étirer, voir où ça nous amène, et puis peut-être dans un autre... Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait sur l'Empire des Auras, où là, j'ai traité plutôt le racisme et la discrimination. Dans le futur, on n'est plus jugé sur la couleur de sa peau ou ses appartenances religieuses ou autres, mais sur la couleur de son aura. Et sur l'effet Ricochet, qui est dans le futur aussi, on est sur des questions autour du clonage, donc on aborde des questions autour de la famille, autour de pas mal de choses, mais dans des thèmes qui n'ont rien à voir, c'est des futurs différents, des futurs parallèles, on parle de choses différentes. Voilà, on va aborder des thèmes différents parce que je ne pouvais pas parler de tous ces thèmes-là dans un seul roman.
Alors nous ne restreignons pas forcément le futur, c'est aussi le futur lointain. Hein. Ici, je dis ça, l'anticipation au sens strict, l'anticipation proche n'est pas forcément le seul espace de réflexion et de jeu là-dessus. Et de ce point de vue-là, finalement, pour continuer sur la question de pourquoi y aller, qu'est-ce qui, selon vous, vous me direz, vous êtes mal placé pour y répondre, il faut peut-être demander à la salle, mais qu'est-ce qui, selon vous, justifie justement cet intérêt, par exemple, pour le post-apocalyptique? Qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir cette fascination pour les récits dans lesquels, finalement, la fin du monde est pour demain, par opposition à un intérêt qui me semble quand même assez fort actuellement pour, justement, un futur lointain qui est celui du space opéra et qui est celui de la promesse d'un dépassement de l'enfermement sur une seule biosphère sur le point de s'effondrer. C'est-à-dire, pour moi, il y a tout de même deux fascinations, au moins une fascination peut-être un peu morbide autour de l'apocalypse, enfin que je partage, hein, c'est pas une critique, et un angle plutôt qui est celui de l'espoir et de l'évasion de l'au-delà, d'un au-delà du destin humain. Vous avez le sentiment que... Enfin, est-ce que vous avez une interprétation à proposer concernant ces moteurs de lecture?
On pourrait, bon, de manière plus générale, c'est certain que ça rejoint le goût pour l'aventure qu'on peut avoir de manière plus répandue, également pour l'exploration. Lorsqu'on pense aux explorateurs en tout genre, ça nous fait rêver. Et puis on a envie, comme auteur et souvent également comme lecteur, de plonger là-dedans. Également le péril. Alors je reste en général, comme j'avais dit. Mais également, je vois un parallèle à faire avec le fantastique et la science-fiction, avec l'attrait de l'inconnu là, qui va nous pousser à aller vers ce futur-là, même si on sait qu'on pourrait ne pas en réchapper, mais on a toujours l'espoir, le même espoir qui va animer les colonisateurs, par exemple, et puis qui va les pousser à s'embarquer par des fois sur un vaisseau dont ils ne reviendront même pas. Alors, il y a tout ça comme mécanisme de départ.
Mais alors justement, qu'est-ce qui pousse les personnages à affronter le voyage dans le temps et le voyage dans l'avenir? Finalement, qu'est-ce qui vous semble être la motivation principale? Justement, juste l'aventure, l'excitation, ou c'est, finalement, quel est le moteur le plus puissant dans l'idée d'aller voir à quoi ça ressemble?
Je sais pas, la curiosité, mais je sais pas s'il y a beaucoup d'histoires de voyages dans le temps, dans le futur. Il y en a peut-être beaucoup plus dans le passé.
Quand j'ai travaillé sur Ascenseur pour le futur, j'ai posé la question autour de moi en se disant, enfin moi, donc c'est un ascenseur qui permet de voyager dans le temps, comme le titre l'indique, et en fait on peut voyager du jour de sa naissance, on va dire, à 100 ans plus tard, on va dire au jour de sa mort, si on dit ça en gros. Et j'ai demandé aux gens, si tu pouvais voyager dans le temps de ta vie, où est-ce que tu irais? Et plus on monte en âge, et plus les gens vont dans le passé. Retrouver un souvenir, retrouver une personne, retrouver un temps qu'ils ont oublié, ou des sensations qu'ils voudraient retrouver, dire quelque chose à quelqu'un. Alors que plus on descend en âge, plus on est jeune, et plus on a envie d'aller voir le futur, plus on a envie de savoir ce qu'on va devenir, plus on se pose des questions comme ça. Ça n'empêche pas des enfants de vouloir voir comment c'était quand ils étaient bébés, quand leurs parents allaient bien, s'ils ont divorcé maintenant, par exemple. Ça peut faire des choses très fortes aussi. Mais la plupart des enfants ou des adolescents vont se projeter plus facilement aussi à avoir cette envie de découvrir. Et par rapport au post-apocalyptique, je pense que c'est pas un mode d'emploi, mais c'est finalement préparons-nous, quoi. Si jamais ça merde, qu'est-ce qu'on fait? Et on peut se préparer avec plein de bouquins différents pour se dire faisons un kit de survie, comment je vais réagir, moi, ou en tout cas s'imaginer en disant oui, la société actuelle est compliquée, peut-être que ça va merder vraiment. Qu'est-ce qui se passe après? Comment on reconstruit? Essayons de voir dans les bouquins les possibilités.
Et finalement, on est toujours du côté des survivants. C'est-à-dire le lecteur ou le spectateur ne s'identifie pas aux morts.
Non. Après, moi, je sais pas, t'as des zombies.
Surtout qu'une remarque. Non, moi j'ai lu des bouquins de zombies où les héros étaient des zombies, en fait. Je les ai pas écrits, hein, mais j'en ai lu quelques-uns, notamment un pour la jeunesse qui s'appelle Zombie, Z-O-M, plus loin B. Et qui est assez sympa d'ailleurs, où c'est une jeune zombie. qui a quelques problèmes avec la société actuelle. Donc, dans l'idée de partir dans le futur, je sais pas. À part se dire l'idée, on est curieux, on va voir ce qui va vous arriver, à quel âge vous allez mourir. Je pense que personne veut faire ça. C'est pas le truc très fun. Après, il doit y avoir des histoires de migration dans le futur, de se retrouver aujourd'hui dans une position où la Terre est en train de, est plus capable de comment dire. On est trop nombreux sur Terre et qu'un groupe de privilégiés partent dans le futur. Moi, j'en ai plutôt vu dans le passé, mais qui partent dans 2000 ans dans le futur, où on pensera que d'ici là, il y aurait eu un grand coup de balai et qu'on pourra recommencer une sorte d'Éden et puis de refaire les mêmes fautes que d'habitude. Mais c'est pas grave, on sera moins nombreux, on s'amusera plus. Je sais pas, il doit bien y avoir des bouquins là-dessus. Moi, j'ai pas d'exemple. Est-ce que c'est dans le résumé qui citait cette nouvelle de Brown avec les vampires,
oui,
là, qui...
du sang, oui. Oui, c'est ça, des vampires qui voyagent dans le futur parce qu'il n'y a plus de place pour les vampires à leur époque, et ils vont le plus loin possible pour arriver à un moment où on ne se souviendra plus qu'il y a des vampires. Et finalement, c'est du Brown, donc la dernière étape de leur voyage n'est pas à leur avantage, mais je vous laisse découvrir cette nouvelle qui est facile à trouver en ligne.
Et qui est très drôle.
Qui est très drôle, voilà. On n'en dévoilera pas la fin. Mais effectivement, il cherche un échappatoire dans l'avenir. Et de ce point de vue-là, il y a tout de même, enfin, ce qui est frappant et qui va tout à fait dans le sens, mais de la logique millénariste de l'an 2000, mais bien plus dans le passé, c'est qu'il y a eu, il y a quand même eu de nombreux récits du 19e siècle et du début du 20e siècle qui représentaient des gens, et notamment c'est la logique de la machine à explorer dans le temps, hein, l'explorer le temps, mais c'est pas qui représente la vision de l'avenir, mais 10 000 ans, 100 000 ans plus tard. Qu'est-ce qui adviendra ? Et c'est un moyen de placer notamment des utopies ou au contraire de satiriser la société. On y reviendra éventuellement. Laurent, est-ce que tu voulais réagir à ce qui a été échangé juste avant ou...
Non, c'est juste le terme post-apo. Ça me fait toujours rigoler parce que c'est, par définition, l'apocalypse, rien ne doit survivre. Mais on ne peut pas s'empêcher de mettre des humains partout. Même après la fin du monde, quoi. C'est ça qui est marrant.
Alors,
c'est
par définition, on peut en débattre. Hein. L'apocalypse, c'est le moment du jugement, c'est le moment où
après,
les choses
c'est
vont
la fin
passer.
Du monde, en tout cas.
Bah oui, mais et après, il y a plein de gens qui tournent en rond en faisant la fête. Hein. C'est super, hein, ce qui se passe après l'apocalypse. Après,
oui, mais pas dans ce monde-là.
Ah, je sais, mais
voilà, c'est un autre monde.
Là, on est dans la science-fiction, donc on est des gens sérieux. Donc les gens sont mal.
Non, mais c'est marrant. En fait, c'est ça une des fonctions de la SF, c'est aussi de peupler le futur d'humains. Et quand on va ailleurs, sur d'autres planètes, on les peuple d'humains.
Ou on les peuple d'individus rationnels, enfin de choses sur lesquelles on peut se projeter.
Oui, voilà. Mais cela dit, les récits de science-fiction où il n'y a aucun humain sont excessivement rares.
Non, parce qu'on les classe en fantaisie.
Dans le corpus. Voilà. Donc.
Si, il y a Flatland.
Voilà.
Alors, je suis tenté de laisser le public poser quelques questions de mi-parcours, s'il y en a. Oui.
Chacun d'entre vous, là, si vous aviez la possibilité d'aller dans le futur, quelle date ?
Bonjour.
Donc, si vous aviez la possibilité d'aller dans le futur, quelle date et quel lieu ? Et pourquoi ?
Alors, moi, dans trois quarts d'heure, dans un bon resto.
J'ai une table au lieu à 21h.
Ça roule.
Au moment où ça serait possible, disons, de se téléporter, alors je dirais probablement dans quelques siècles. Il faut que je sois très précise? Non, pas le jour. Alors peut-être sur Encelade dans quelques siècles, au moment où il y aurait moyen, sans avoir un manteau extrêmement épais, de visiter cette lune.
Alors moi, je vais botter en touche parce qu'en fait, j'ai réfléchi pour Ascenseur pour le futur. Et en fait, mon personnage va construire cet ascenseur pour voyager dans le temps. Normalement, pour retourner dans le passé, pour changer quelque chose dans son passé. Mais en fait, il ne va pas l'utiliser parce qu'il va avoir la trouille de trop changer de choses. Et c'est pas lui qui va l'utiliser. Enfin, voilà. Et c'est quelqu'un d'autre qui va lui attirer des ennuis. Et du coup, je me suis dit, moi, finalement, si je voyageais dans le temps, où est-ce que j'irais ? Est-ce que j'irai dans le passé ? Alors non, moi j'aurais la trouille aussi de trop changer de choses, parce que j'aime bien ma vie comme elle est maintenant, qui m'amène ici devant vous aujourd'hui. Donc je ne changerai pas de rien dans mon passé. Et dans le futur, du coup, est-ce que ça va influencer ma vie ? Quand je vais revenir, est-ce que voir des choses de mon futur vont m'influencer ? Sans doute. Donc je préférerais pas y aller, en fait. Ou alors vraiment, mais alors de façon très discrète pour voir mes enfants adultes et en bonne santé et qu'il leur arrive plein de choses bien, mais certainement pas pour voir des choses de moi. Donc voilà, je suis contre le voyage dans le temps.
Moi, j'essaierai de rationaliser la chose. Donc je me dirais, il faut que j'aille dans un futur où j'ai pas un réapprentissage de la langue à faire, etc. Donc j'irai dans un futur relativement proche, à quelques décennies ou peut-être un siècle ou deux, pour qu'on me comprenne et
c'est
que je comprenne.
C'est optimiste pour la langue quand même, hein. C'est optimiste.
Ouais, c'est optimiste peut-être. Ouais. Mais en même temps, moi j'ai l'impression de voyager dans le temps tout le temps. Parce qu'on est quand même dans un monde tellement qui est devenu tellement fragmenté qu'il en devient postmoderne d'une certaine manière. Et donc quand je vois certains articles de journaux, j'ai l'impression qu'ils se passent pas si loin d'ici. J'ai l'impression d'être de retour au Moyen-Âge. Voilà, d'autres des trucs high-tech, j'ai l'impression d'être dans le futur. Donc de toute façon, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde déjà temporellement assez déstructuré en ce moment. Donc j'ai l'impression de voyager dans le futur souvent, en fait, déjà. Enfin, dans le temps, en tout cas.
Alors, merci pour cette question. Et d'ailleurs, on le voit ici, c'est qui renvoie finalement à cette promesse. Tout à l'heure, Karim, tu disais qu'il n'y a pas forcément tant de récits de voyages dans le... Mais dans la série Doctor Who, qui est quand même assez populaire, que certains doivent connaître ici, eh bien, finalement, ça fait partie de l'enchantement. C'est-à-dire, finalement, ce qu'il offre, c'est... Bah, On peut aller n'importe où, n'importe quand. Allons-y. Qu'est-ce qu'on fait? Et effectivement, il y a cette question-là, finalement, mais où est-ce qu'on va? Et là, on est dans l'aventure la plus pure, effectivement. Une autre question, oui.
Enfin, oui, c'est plus ou moins une question, mais je me pose toujours la question avec le voyage dans le temps, dans le futur. C'est que, après, ça dépend de la conception qu'on a du temps, mais si on quitte son temps pour partir dans le futur et qu'on voit on va dans les endroits connus, les gens se demandent où est-ce qu'on était, parce qu'en fait, on a disparu de sa ligne temporelle.
Si on revient donc c'est... à 5 minutes près, on a vieilli de 10 ans, par exemple, si on est parti 10 ans, c'est comme
oui,
le
même, si on va 20
livre
ans
de
plus
Stephen
tard,
King sur l'assassinat de Kennedy, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il retrouve son ami qui a l'air drôlement vieux tout d'un coup, alors qu'il a quitté 5 minutes.
Et en plus, voilà, on se dit, on croise des gens, bah, tiens, mais un jour, t'étais là et t'as disparu, et ça fait 20 ans qu'on t'a pas vu, mais où est-ce que t'étais, qu'est-ce que tu fais? Donc, il y a toujours, je trouve, ce problème dans le voyage dans le temps, de se dire est-ce qu'on est discret, est-ce qu'on se fait voir, qu'est-ce qu'on voit, est-ce qu'on se voit nous-mêmes, est-ce que c'est un monde parallèle, c'est toujours ça, je trouve, qui est compliqué dans...
Eh ben, on donnera la réponse quand on arrivera vraiment à voyager dans le temps.
Mais c'est la magie de la SF qu'on n'a pas à tout expliquer, déjà. C'est, on est des imposteurs, faut pas l'oublier, on n'est pas des scientifiques.
De toute façon, le voyage dans le temps, dans le récit de SF, aime beaucoup jouer sur les paradoxes. Hein,
effectivement, c'est
un des plaisirs. Il y a plein de nouvelles et de films excellents aussi qui jouent sur ce jeu du paradoxe.
Alors, cela dit, ça, c'est quelque chose que j'ai pas souvent vu exprimé dans la science-fiction. C'est une idée tout à fait frappante, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un effet de d'ouverture de parenthèse lorsqu'il y a un voyage dans le temps. Et par rapport à ce que Nadia, tu disais tout à l'heure, j'irai dans le futur pour voir comment ont grandi mes enfants. Si on suit cette logique-là, ils ont grandi sans leur mère.
En fait, oui. C'est-à-dire je pense que je reste sur l'idée d'avoir un appareil ou une montre ou n'importe quoi, quelque chose qui permet de revenir finalement à la seconde où on est parti.
Oui, mais justement, mais là, on peut aller dans le sens de l'expérience de pensée ici un tout petit peu, mais justement explorer.
Laisse mes enfants tranquilles.
Pardon.
Je disais laisse mes enfants tranquilles.
Non, mais je veux pas, bien sûr, pas parler de ça en tant que tel, mais qu'effectivement, il y a ce qu'on observe là, c'est que dans la logique même du voyage temporel, comme le rappelait Karim, c'est que c'est l'instrument des paradoxes et du jeu sur le temps, effectivement. Mais de ce fait là. Il y a aussi, c'est à la fois un espace de jeu et un espace extrêmement casse-gueule, parce que chercher un problème dans une histoire de voyage dans le temps, ça prend l'eau tout de suite, quoi.
C'est clairement que l'idée, je vais voir dans 50 ans ce que sont devenus mes enfants. J'arrive sur place, je trouve pas mes enfants. Déjà problème, je vais revenir et je vais vivre ma vie différemment. Je vais dans le temps dans 50 ans et effectivement je me prends un piano sur la tête, voilà, comme tu dis. Donc on peut s'amuser à plein de choses. Alors bon, est-ce que ça sera vraiment réalisable un jour, le voyage dans le temps? Mais il y avait un film qui s'appelle The Jacket qui était excellent pour ça, et puis la femme du voyageur voilà. D'accord, et qui est un film aussi qui joue beaucoup sur le paradoxe, en fait. Mais c'est des films à peine de science-fiction, parce que ça se passe. Il n'y a pas de grand voyage dans le temps. Il y a juste on comprend pas tout de suite que c'est des voyages dans le temps, et on s'aperçoit qu'il y a des personnages qui sont pas à leur place, parce que en fait ils voyagent sur des très courtes durées. Ils vont influencer. Tout un pan de l'histoire, et c'est très 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 bien fait, et ça joue uniquement sur le paradoxe et sur.
Et effectivement, c'est des cas de voyageurs involontaires
en plus.
C'est ça. Tu parlais de Doctor Who tout à l'heure. Pourquoi ils se permettent de se dire on va vivre l'aventure dans le futur, dans le passé, où on veut? Parce qu'ils ont la certitude de revenir au même point. En tout cas, pour tous les humains que le docteur va emmener, c'est un petit peu
une promesse plus qu'une certitude.
Oui.
Il passe son temps à rater son coup.
Voilà, mais c'est toujours ça, en fait. On s'autorise à voyager dans le temps, dans les livres ou dans les séries ou dans les films, moi je parle surtout essentiellement des, voilà, quand on a la possibilité de rentrer, pas quand on fait un voyage sans retour en disant on verra bien et si ça marche plus on sera coincé dans le futur. Non, non. On s'autorise à partir en se disant bon, on a moyen de rentrer et normalement si tout va bien à un moment ça merde et du coup voilà, c'est là que l'aventure commence.
On avait un petit peu cette, on avait cette dérive-là dans une autre série là, qui s'appelle Quantum Leaf, là, qui était quand même assez fromagée, et dans laquelle, je sais pas, vous dites pas ça ici, et dans laquelle le personnage se retrouvait. Il avait jamais aucune idée à quelle époque il allait être amené.
Code Quantum.
Ouais, oui, voilà. Et mais il était là pour régler des problèmes, problème après problème, en changeant d'apparence. Alors ça l'avait, bon, malgré le côté un petit peu fromagé, je vais le redire, de la série, eh bien ça l'avait un intérêt assez assez réaliste parce qu'en fait, il savait absolument pas où il allait arriver.
C'est incroyable. On est la patrie du fromage. On ne sait pas ce que ça veut dire fromager, en fait.
Non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est dans le sens comme adjectif. Là.
On sait toujours pas ce que ça veut dire.
Je cherchais une façon de le définir.
Y a-t-il une autre question? Oui.
Y a-t-il un Québécois dans la salle qui peut traduire?
C'est pour nous expliquer fromager ou?
Deux choses. La première intervention, c'est Ariane, il va falloir que tu m'expliques ça parce que je la connais pas non plus. Expression.
C'était un piège.
Mon intervention principale, c'est que il y a un aspect qui n'a pas été abordé jusqu'à maintenant, qui est un peu l'inverse de la question qui est posée dans le panel. Pourquoi on n'irait pas dans l'avenir? Personnellement, j'ai une raison de ne pas vouloir voyager dans le futur si on m'offrait cette possibilité-là. Quand j'étais petit, oui, je voulais voir le futur. Mais maintenant, je ne voudrais pas y aller par crainte d'apprendre accidentellement la date de ma mort. Pas que la mort m'effraie en soi comme phénomène, mais j'ai des raisons de ne pas vouloir savoir quand ça va arriver. Mais est-ce qu'il y aurait des raisons qui pourraient nous motiver à ne pas vouloir aller dans l'avenir, justement?
Mais le fait de savoir, par exemple, que tu vas décéder dans 15 jours d'une intoxication alimentaire, est-ce que ça ne va pas te permettre, justement, de l'empêcher, tu vois? Est-ce que c'est intéressant de savoir... De quoi vais-je mourir pour essayer justement de ne pas en mourir?
Est-ce qu'on peut changer l'avenir alors? C'est un peu le sujet du film.
À partir du moment où on va dans l'avenir et qu'on prend des décisions sur les observations qu'on va faire dans l'avenir, on va changer l'avenir.
Parce que sinon on va rentrer dans des thèmes autour du destin et de lignes d'avenir figées. Quoi qu'on fasse, ça va arriver. Là, je pense que quand on aborde plutôt les questions de voyage dans le temps, à moins d'être vraiment sur des thèmes spécifiques où vraiment il faut faire des schémas toutes les 5 minutes pour être sûr que les paradoxes temporels fonctionnent et voilà, mais en général oui, on est plus sûr du moment où ça change, ça va changer tout le futur et pas je prends un exemple que vous avez peut-être vu sur ce film de X-Men où il y a les voyages dans le temps, vous voyez, Days of Future Past il me semble, voilà, typiquement toutes les scènes qui se passent dans le futur où on voit les héros attaquer, etc., à partir du moment où ils ont renvoyé un des leurs dans le passé pour changer les choses, toutes ces scènes ne devraient pas exister, il n'y a aucune tension, c'est-à-dire soit il y arrive et du coup ces scènes n'existent pas, soit il n'y arrive pas mais il n'y a pas une espèce de truc où, comme une espèce de compte à rebours, à la dernière seconde, ils vont les sauver dans le futur. Non, enfin voilà, ça se passe 30 ans avant. Voilà, il n'y a pas de raison que cette scène arrive ou pas à la dernière seconde s'il arrive à sauver un truc dans le futur 30 ans avant. Enfin, dans le passé 30 ans avant, non. C'est pas figé. Ouais.
Mais dans la patrouille temporelle, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est celui qui va le plus loin, qui éradique l'existence même de l'ennemi, en fait. Celui qui va le plus loin dans le passé, tout en se rapprochant de l'embranchement où l'ennemi existe, enfin arrive à l'existence. Donc c'est, beaucoup a été fait vraiment avant-guerre, hein, parce que la Légion du Temps, c'est 38, je crois, et y a déjà tout Retour vers le futur, le film dedans quasiment, en encore plus vertigineux des fois parce que ce sont deux possibilités d'avenir qui s'affrontent dans le passé. C'est deux potentialités qui s'affrontent. Et donc il y en a un qui est une société totalitaire et l'autre une société, on ne sait pas trop, mais militarisée, mais plus démocratique, on va dire. Même si on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais voilà. Et en fait, ils se battent dans le passé. L'un en allant soustraire à la mort des combattants qui vont mourir sur le champ de bataille pour éviter les paradoxes temporels. Donc à une milliseconde avant que l'obus écrase sur eux, hop, ils les font disparaître, ils extraient du temps et ils rejoignent la Légion du Temps. Et l'autre, par des moyens plus conventionnels, mais en allant écrabouiller les vaisseaux temporels de l'ennemi. Et au fur et à mesure que la bataille penche en faveur de l'un ou de l'autre, les gens dans le futur deviennent translucides, un peu comme comme la photo dans Retour vers le futur, c'est ça, ils ont emprunté cette idée géniale dans le truc. Mais il y avait déjà l'idée du futur qui va vers le présent, c'est l'équivalent de nous allant vers le passé finalement.
Sur la question, enfin sur la représentation du fait qu'il y a un effet de décalage, évidemment ça sert des logiques de dramatisation, mais c'est quand même un stéréotype ou en tout cas un trope souvent réutilisé, l'idée qu'il y a un temps d'ajustement. Et qu'en fait, et d'ailleurs ça va un petit peu dans le sens de cette question de finalement qu'est-ce qui se passe quand on ouvre la parenthèse du voyage temporel, c'est finalement que dès lors que quelqu'un va intervenir sur le passé, le futur fluctue. Mais tant qu'il fluctue, bah finalement on voit des choses. Bon, mais évidemment ça ouvre la voie des problématiques temporelles. Et alors, mais justement, et par rapport dans le prolongement de la question de Philippe Auvercoté, la question que je vous poserai là, c'est finalement est-il bien moral de vouloir changer le présent? C'est-à-dire que, supposons un personnage, je ne vous demande pas de vous mettre à la place de votre personnage parce qu'on l'a beaucoup fait jusqu'ici, mais si vous deviez écrire l'histoire d'un personnage se rendant dans le futur et y apprenant quelque chose, est-ce que il vous semblerait moral d'envisager que, revenant dans son présent, il change son présent? Parce que c'est tout le problème d'ailleurs de Retour vers le futur 2. C'était finalement le problème, c'est la transgression. Et en même temps, bizarrement, autant il est interdit de changer le futur quand c'est pour devenir riche et devenir le chef de la ville, visiblement, quand on est méchant, on n'a pas le droit de changer le présent. Et ben autant quand on est gentil, bon, on a quand même le droit de changer des choses parce que finalement tout va bien se passer. Puis voilà, la famille va s'arranger. L'essentiel, c'est que la famille l'essentiel, c'est la famille. Oui.
Ben ça pose le problème de, mon utopie sera peut-être votre dystopie. Donc ça montre juste la subjectivité de ce qui est bon dans l'histoire, ce qui est bien dans l'histoire en fait, ou moral, ou voilà, c'est juste la subjectivité des choses et du destin individuel. Alors Heinlein, lui, il avait résolu ça, c'est-à-dire que comme il donnait la primauté à l'individu, la possibilité de le faire justifie de le faire. Et d'une certaine manière, la société n'existe pas dans ces logiques-là. Dans la logique individualiste. Donc on peut changer. C'est une idéologie comme une autre, j'allais dire. Voilà. Il y a ça. Mais j'ai l'impression que
c'est pas ça. C'est le souci, c'est que si il y a une personne, si on décide qu'une personne peut changer le futur, ça va. Mais si tout le monde peut changer le futur, finalement, ça changera rien, quoi. Ça sera comme aujourd'hui. Tout le monde influencera différemment.
Il y a une représentation de ce type de choses, mais dans un espace virtuel, dans un des romans, un des cycles de Peter Hamilton, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est où en fait, dans un espace qui est virtuel, tous les individus sont capables de faire un reset de leur vie. Mais c'est un mélange avec une représentation de type jeu vidéo, en fait, l'idée qu'on peut revenir en arrière, faire une sauvegarde antérieure, mais ça s'applique dans la réalité, effectivement. Et c'est un peu heinleinien, puisque ça aboutit à une forme de transcendance pour tout le monde. Sauf que bon, le processus lui-même consomme l'énergie de l'univers, donc tous les gens qui sont à l'extérieur du jeu sont en train de mourir, mais c'est un autre problème. Bon, je simplifie, mais bon, voilà. On n'a rien sans rien, hein. Il n'y a pas de repas gratuit. Pour parler encore de Heinlein, il n'y a pas de repas gratuit. Nadia, Ariane? Si vous voulez réagir sur la question que j'avais posée.
On parlait de reset, alors moi je me dis depuis tout à l'heure, alors est-ce que je peux faire un reset il y a 10 minutes et utiliser un autre adjectif? À ce moment-là, ça serait super intéressant. Mais aussi, ça dépend si, lorsqu'on va modifier, que ce soit le passé ou le futur, si lorsque quelqu'un d'autre entre dans la même trame, si elle s'efface ou si elle se bonifie, puis comment toutes ces vies-là, ces existences entrecroisées pourraient s'influencer s'influencer les unes les autres. Ok, ouais, bon, moi, point.
Après, moi, je pense à des choses de maintenant où il y a des gens qui vont aller voir une voyante, par exemple, qui va leur annoncer des choses de leur avenir, et quelle part ça va influencer leur choix de tous les jours et construire leur futur différemment de s'ils ne l'avaient pas vu, par exemple. Donc voilà, c'est un petit peu le même principe que voilà, si vous allez voir le futur et qu'il se passe un truc, on vous donne des événements qui se sont passés, vous l'aurez de toute façon dans un coin de la tête, et même si vous n'avez pas la volonté de le changer quand vous êtes dans le présent, vous êtes revenu dans votre présent, vous dites je ne vais pas changer mon futur, ça ne va rien changer, mais vous l'aurez toujours de toute façon dans un coin de la tête, et dans chacun de vos choix, vous pencherez d'un côté ou de l'autre, et ça va faire arriver les choses ou pas, en fonction des choix que vous allez faire, parce que quelqu'un vous l'a dit, parce que vous le savez, ou voilà. Donc même sans avoir la volonté de changer les choses, je pense que ça a une influence de toute façon.
Philippe Cadic, dans Les chaînes de l'avenir, présente sa situation exactement, et de façon absolument abominable, puisque c'est Philippe Dick, puisque c'est quelqu'un qui est capable de connaître les 6 prochains mois de sa vie. Et il est en permanence en train d'agir en fonction de cette connaissance des 6 prochains mois de sa vie, sauf que le problème, c'est qu'il se rend compte qu'il ne peut absolument pas les changer. C'est-à-dire que le fait qu'il connaisse, et le fait, enfin, la boucle de rétroaction est déjà figée. Et lui-même est le spectateur de sa propre vie sur une période de 6 mois, en fait. Bon, bref. Lisez ce roman qui est par ailleurs, qui contient beaucoup d'autres idées, bien sûr.
En fait, le voyage dans le temps, ça va être une bonne affaire pour les psychiatres, je pense, les psychanalystes, parce qu'on va se faire des nœuds au cerveau, et je pense qu'on n'en est pas sortis, là.
Ah bah, on peut, à ce moment-là, faire référence à All You Zombies de Robert Heinlein, qui est effectivement une merveille pour les psychanalystes, puisque c'est l'histoire d'un personnage qui s'engendre lui-même en ayant changé de sexe à plusieurs reprises, au travers de différents voyages temporels.
En français, La mère célibataire, et ça a été adapté à l'écran. Il y a eu un film
qui est
relativement récent, d'ailleurs. Voilà.
Prédestination, peut-être, en traduction française.
C'est ça.
Mais je sais plus si c'est All You Zombies. C'est pas All You Zombies non plus dans le titre anglais. Enfin bon, on vous laissera trouver. Donc Prédestination, effectivement, c'est un film passionnant, mais justement qui n'est pas tellement sur la visite de l'avenir en tant que tel. C'est une boucle temporelle.
C'était en fait oui. ça faisait partie des jeux logiques. C'est ça qui est génial avec le voyage temporel, et les paradoxes, c'est les jeux logiques en fait. C'est comment on crée des trucs pour retomber sur ses pieds finalement. Et ça vaut surtout quand il y a une ligne temporelle à restaurer. Ça perd un peu de sa pertinence quand il y a eu le multivers qui est arrivé, et donc la possibilité de tas de présents de façon parallèle. Du coup, la question du choix ne se pose plus, puisque tous les choix sont possibles.
Et aucun n'a de conséquences réelles.
En tout cas, ils coexistent tous, oui.
Et j'ai envie de poser une question un peu qui va un peu dans le sens de une question qu'on vous a déjà posée, mais différemment tout de même, qui est finalement dans quel avenir est-ce que vous aimeriez vivre ? Je vous demande pas si vous avez envie de visiter votre futur. Ce que je vous demande, c'est finalement quelle est votre anticipation de référence ? C'est-à-dire, où est-ce que vous aimeriez être projeté en termes d'anticipation de textes de science-fiction déjà existants ? Enfin.
Je pense que 2050, ça peut être une bonne date à viser pour voir déjà le monde sans pétrole. Ça peut être fun.
Oui, il y a une version post-apocalyptique de ça, oui. C'est Mad Max. Donc Mad Max pour Nadia Coste.
Ça serait un mélange de toutes sortes de choses. Je mentionnais la téléportation tout à l'heure. Alors, ça serait un élément que j'aimerais retrouver
donc Star Trek.
Dans ce futur-là. peut-être. Plus de forêts, forcément, dans ce futur-là. Et plus de navires également. Je suis assez fascinée par l'idée des bateaux qui seraient peuplés. Et puis, on aurait davantage un peu sur les continents des animaux et puis de la végétation. Alors, un amalgame un peu de tout ça. Puis, avec du mouvement perpétuel dans ces navires-là et qui ne fonctionnerait pas au pétrole.
Ouais, Karim, Laurent
Non, moi ça me va, Star Trek, le pont de l'entreprise.
C'est sympa, Star Trek. Voilà.
Une petite place.
Ouais, Star Trek. Ou la version perverse de Ian Banks dans La culture. Un monde... voilà, c'est un commus... incommensurablement lointain et alien. En plus, c'est des aliens anarchistes, alors c'est génial.
D'accord, et puis donc, au moins, les intelligences artificielles décideront pour toi, donc ça sera beaucoup plus agréable. Y a-t-il une autre question ? On a un peu le temps, quand ? Oui ? Merci.
Bonjour. Je voulais revenir sur le fait que vous préférez la dystopie à l'utopie. Est-ce que c'est pas plutôt que c'est plus facile de critiquer le temps présent avec une dystopie plutôt qu'avec une utopie?
Je reviens sur ce que disait Karim tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une utopie, dans l'absolu, tout va bien, donc il n'y a pas d'histoire. Donc en fait, on n'a rien à raconter. Donc c'est une dystopie, c'est finalement une utopie qui foire, à un moment ou à un autre, où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, même si tout va bien en apparence, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner sur le long terme. C'est-à-dire, même si sur le principe ça a l'air pas mal, à l'utilisation, il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous, finalement, ce qui nous intéresse, c'est les personnages qui souffrent, les personnages qui ne sont pas bien. Donc la meilleure, il se trouve que mon premier roman est une dictature du bonheur, donc vraiment dans un monde féerique, hein, c'est de la fantaisie, j'en parle de fantaisie ici, je vais me faire taper sur les doigts, mais voilà, ça s'appelle Effet d'Eline pour ceux que ça intéresse, et donc voilà, on est dans une dictature du bonheur, vraiment tout le monde doit être heureux à tout prix quoi qu'il arrive, chacun a son destin dès le départ à sa naissance, et du coup c'est des faits très animales, hein, on n'est pas sur la fée clochette, mais du coup il y a des oiseaux migrateurs qui passent, qui les mangent, mais c'est pas grave, c'est le destin, ils continuent d'avancer, et du coup tout le monde est heureux tout le temps, et bien sûr mon personnage va être celui qui est le moins heureux de tout cela, celui qui n'a pas de destin. Pris le contre-pied un peu de ce cliché sur le destin avec le héros formidable, l'élu de la prophétie qui doit tuer le grand méchant, etc. Moi j'ai fait voilà, le seul qui n'a pas de destin dans tout ce monde là et finalement lui il va être malheureux et c'est son histoire à lui qui est intéressante. Voilà, l'histoire de tous les gens qui sont heureux dans l'utopie, bon, bah, y a pas grand chose à raconter avec ça. Celui qui est malheureux là-dedans, il a peut-être quelque chose à faire pour bouger les choses et finalement, voilà, que ce soit une utopie, une dystopie, un personnage qui souffre là-dedans, c'est celui qui, pour moi, sera le plus intéressant à voir, à voir évoluer, à voir grandir, à voir changer les choses.
Y a quand même une utopie géniale, enfin la confrontation d'une utopie à la réalité, qui est Les Dépossédés d'Ursula Le Guin, que je conseille vraiment à tout le monde, et qui prouve qu'on peut écrire une utopie avec un bouquin haletant et d'un bout à l'autre. Mais même si c'est de la science-fiction, c'est-à-dire on n'est pas dans une métaphore. Moi, je suis pas trop branché dystopie utopie, à vrai dire. Je suis trop SF pour ça. J'aime bien les univers qui existent vraiment d'une certaine manière, qui sont pas la simple retranscription d'un fantasme totalitaire ou autre. J'aime bien qu'il ait sa propre vie d'une certaine manière. Or quand on vit justement, on n'est pas figé. Et les dystopies, c'est quelque chose de, comme les utopies, c'est quelque chose de qui sont une fin de l'histoire.
C'est des machines infernales. Et effectivement, dans une fin d'histoire, oui.
Ça, c'est.
Donc je suis pas trop et je vois pas d'ailleurs comment on peut faire une vraie critique de société avec une société qui n'est plus une société. Une utopie, ce n'est plus une société pour moi. Pas plus qu'une dystopie d'ailleurs.
Moi, c'est le choix de la date qui est le premier moteur au départ pour savoir dans quoi ça va être classé. Après, si c'est une utopie, une dystopie, de l'anticipation ou autre, ça vraiment, c'est vraiment pas quelque chose que je me dis au départ en me disant tiens, je vais faire une dystopie post-apocalyptique. Enfin, non. Mais par contre, le choix de la date me dit si je mets 2020, ça va être vite là. Et il y aura forcément, si le bouquin reste un peu, hein, on espère que les bouquins restent un petit peu, un lecteur en 2020 qui va lire ce livre et qui va dire « c'est pas du tout comme ça, 2020 ». Et autant sur certaines histoires, voilà, on imagine des évolutions de société qui vont amener à cette histoire-là, même si c'est en 2050 ou en 2070 et que quelqu'un de 2050 tombe sur mon bouquin pour une raison ou pour une autre dans une capsule temporelle qui aurait été mise ou je sais pas et lit ça, il va avoir un petit sourire en disant bah voilà comment on pouvait imaginer le futur en 2017, ok d'accord, avec un petit sourire comme on le fait sur des auteurs genre en 1984 on lit ça avec un petit sourire en disant oh quelle imagination quand même pour l'époque. Et quand j'ai fait Ascenseur pour le futur, justement, le choix des dates, j'avais envie qu'à aucun moment, mon lecteur puisse avoir ce genre de petit sourire en disant « Oh, quand même !» Et du coup, j'ai choisi 91 et 2015. Voilà, c'est du voyage dans le temps entre les années 90 et maintenant, où finalement, voilà, on va se placer sur le lecteur plus jeune, enfin voilà, qui grandit dans les années 90 avec cette vision du futur de l'an 2000 et qui va se retrouver maintenant et qui va voir tout ce qui a changé, tout ce qui n'a pas changé surtout, et voilà, tout ce qui fait qu'on est dans le futur par rapport à cette période-là. Et finalement, tout ce que je dis sur 91, c'est réaliste. Pas dire c'est réel, mais en tout cas c'est réaliste. Ce que je dis sur 2015, c'est réaliste aussi. Donc finalement, même si on lit ce livre en 2020, en 2050, en 2070, on aura finalement, il va presque devenir historique dans le sens où ce sera un marqueur de comment on vivait en 2015, comment on vivait dans les années 90, et ce sera toujours juste, quelle que soit l'époque où le lecteur le lit. Et quand j'écris quelque chose qui se passe vraiment dans le futur, je sais que ce sera pas juste, je sais que ce sera pas comme ça, et tant mieux. Mais c'est, voilà, ce choix de la date fait que, est-ce qu'on va être dans quelque chose de réaliste? On peut être quand même, voilà, ça peut être réaliste, mais c'est pas forcément, ça sera pas réel.
Bien, je crois que nous allons achever là-dessus, puisque l'écho me dit que c'est l'heure de finir. Donc merci à vous d'avoir écouté et participé, et merci bien sûr à nos intervenants et intervenantes.
Merci.